Voilà. Donc maintenant, on peut attaquer la délibération. Donc il n'y a pas de vote par lui-même sur le débat, mais il y a un vote comme quoi le débat a eu lieu. Donc je laisse la parole à Charles-Alexandre qui va nous expliquer tout ça.
Donc bonsoir à tous. Je vais préciser également les propos de Monsieur le maire, aller dans son sens, c'est que ce soir c'est un débat, il n'y a pas de délibération à adopter. On est bien sur un rapport qui est écrit, que vous avez entre les mains, et que vous avez sans doute lu tous attentivement. Et ensuite, je vais vous le présenter et on actera à la fin la tenue du débat, non pas sur le fond, mais acter la forme du débat. Donc, de manière habituelle, nous présentons le contexte général, le contexte macroéconomique. Comme tous les ans, nous soulignons les nombreuses incertitudes. On a des chiffres qui annoncent une croissance mondiale à 3%, une croissance en Europe qui est très fragile, à 1,1%. Ceci sans avoir les effets exacts du Brexit, où les négociations sont toujours en cours et elles débutent, même si la Grande-Bretagne est effectivement sortie de l'Union européenne. Il y a toutes les questions douanières et les questions fiscales qui seront à prendre. La situation en Iran, dont on n'entend plus parler, mais qui peut avoir des effets importants chez nous. Les élections présidentielles américaines, pas de débat là-dessus. Et le risque de pandémie au niveau du coronavirus, qui pourrait avoir des effets en France, notamment au niveau du tourisme, parce que de nombreux Chinois se rendent en France pour visiter notre pays. Néanmoins, le taux de chômage au niveau de la zone euro continue à reculer, donc on serait sur 7,5% de taux de chômage. Et alors, au niveau des établissements financiers, que ce soit au niveau de la Fed ou alors de la BCE, des taux directeurs qui restent très bas et qui seraient normalement, qui devraient rester négatifs, avoir peut-être une légère remontée, mais sur des taux négatifs. Au niveau national, on reste sur un budget en hausse de 1,3%, donc ce qui est assez sensible aux années précédentes. Le taux de chômage s'établit à 8,6% de la population active, soit 3,6 millions de demandeurs d'emploi au troisième trimestre 2019. Au niveau du déficit public, donc le déficit public est prévu à 2,2% en 2020, donc ça reste en dessous des 3%, la règle fixée au niveau européen, règle de 3% qui est régulièrement mise en cause, car il semblerait que cette règle a été fixée dans le bureau à l'Élysée quand François Mitterrand avait souhaité avoir cette règle et personne après n'a établi de calcul précis là-dessus sur la raison. Une baisse de l'inflation à 1,2%, donc une inflation à 1,2%, et cette fois-ci une dette public qui est supérieur à 100%, donc à 100,4% du PIB, donc plus de 2 415 milliards d'euros. Alors après toutes ces données nationales et internationales, nous allons nous intéresser un peu plus au contexte de notre commune. Au niveau du tissu économique, nous avons au niveau de la demande d'emploi, le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A est de 808 demandes au troisième trimestre 2019, contre 765 au troisième trimestre 2018, soit une progression de 5,6% des demandeurs d'emploi de catégorie A. Cependant, en cumulant les trois catégories de chômeurs A, B et C, il y a une baisse annuelle de 1,5%. Ensuite, tous les ans, on présente les données du CCAS sur le nombre d'aides et sur les montants accordés. Donc, les demandes d'aide sociale cette année augmentent, contrairement aux années précédentes. Les aides facultatives octroyées donc, sont de 82 322 euros contre 61 229 euros en 2018. Le nombre de personnes aidées s'élève à 228 bénéficiaires sur 450 demandes. Et en 2018, nous avions eu 209 bénéficiaires pour 408 demandes traitées en 2018. Alors, la question qui pourrait être posée, c'est comment se fait-il qu'il y a une hausse ? Parce que la dernière, la question, c'est comment se fait-il qu'il y a une baisse ? Donc, une hausse pour deux raisons, c'est qu'il y a eu des dossiers un peu plus importants au niveau des montants, au niveau de situation d'aide au loyer, pardon. Et aussi un travail qui était un peu plus... qui était déjà en très bonne collaboration, mais qui était un peu plus travaillé, si je puis dire, avec l'UTPAS, où des échanges plus importants ont eu lieu. Au niveau du nombre de logements sociaux, nous sommes à 23,25%, donc nous ne sommes pas loin des obligations légales de la loi SRU. Je vais repartir un petit peu au niveau national, mais qui concerne notre commune, sur une mesure que nous évoquons depuis quelques années, où là nous avons des annonces à faire, sur la suppression de la taxe d'habitation, nous avons des précisions, contrairement aux années précédentes. Mais finalement, toutes les discussions que nous avons pu avoir au Conseil ou alors en commission se révèlent plutôt exactes, avec une mesure rassurante, j'y reviendrai après, enfin qui est rassurante au premier abord, on verra si ça continue. Donc dans le projet de loi de finances 2020, le gouvernement a décidé de supprimer la totalité de la taxe d'habitation pour les résidences principales. Nous, en nombre de résidences secondaires, c'est très marginal. On doit être à 8 résidences secondaires sur notre commune. Donc, pas trop de soucis à se poser. Pour notre commune, c'est 3800 foyers, à peu près 3800 foyers, qui sont concernés par cette suppression, en sachant que le nombre de foyers fiscaux est de 5800, ce qui représente un dégrèvement d'1 441 000 euros, à peu près. Je rappelle ici, et je l'ai également fait l'année dernière, ou je le fais à chaque conseil, je pense, que la recette de la taxe d'habitation, ça correspond tout de même à 20% de nos recettes. Donc c'est quand même pas neutre. Une réforme d'une telle ampleur, c'est pas neutre pour les finances communales. Donc comment ce mécanisme va-t-il se mettre en place, et concrètement ? Donc je rappelle le postulat de départ où l'État s'était engagé à prendre en charge la totalité de ce dégrèvement. Il semblerait que ceci soit tenu du fait du transfert de la taxe foncière payée par les Lissois auprès du département. Donc nous récupérons l'entièreté de la taxe foncière payée par les Lissois, en sachant qu'il y a un risque, et c'est le cas chez nous, que la taxe foncière perçue par le département payée par les Lissois soit inférieure. C'est le cas. Donc, il y a un mécanisme de compensation qui existe par rapport aux autres communes du département et même de France, où ceux qui ont des montants de taxes foncières payés auprès du département plus élevés, il y a un mécanisme correcteur. Donc, normalement, nous devrions avoir des recettes à zéro, sauf qu'il y a une petite précision. S'il y a une différence inférieure à 10 000 euros, il n'y a pas de compensation. Donc, il y a une marge de 10 000 euros sur ces recettes. La bonne nouvelle, c'est que la compensation serait évolutive, c'est-à-dire qu'on ne part pas du même postulat de départ que la réforme de la taxe professionnelle unique entre 2001 et 2002, où quand la réforme de la taxe professionnelle est passée de la commune à l'intercommunalité, la recette a été fléchée et est restée stable. C'est-à-dire qu'on payait, je prends un exemple, si la taxe professionnelle était à 1 million d'euros en 2001, la compensation que nous avons est toujours à 1 million. Là, la différence, c'est qu'il y aura la dynamique des bases et des valeurs locatives qui rentreront. Donc, normalement, on devrait toujours avoir une recette dynamique au niveau des valeurs de la taxe foncière. Deux petites inquiétudes. La première, c'est une inquiétude que nous partageons, je pense, tous. C'est la rupture d'un lien entre certains contribuables et la commune, où le seul lien qui existera, ce sera le paiement du service et non plus une contribution globale aux services communaux. Ça, c'est plus une question philosophique, mais c'est un petit peu dommage. Ça, voilà, c'est sur le principe d'appartenir à la commune, de verser quelque chose à la commune pour les personnes qui ne payent pas la taxe foncière. C'est un petit peu dommage. Mais la plus grande inquiétude revient pour notre intercommunalité et notre département, c'est pour donc la métropole et le département du Nord, où les recettes qui compensent la taxe foncière qui nous revient, c'est une part de la TVA, mais la part de la TVA, le département comme la métropole n'ont pas de pouvoir de taux, donc on ne sait pas comment eux vont être mangés, en sachant que le département comme la MEL, ce sont quand même deux institutions qui nous soutiennent énormément. Au niveau des subventions, je vais citer le département pour la cuisine centrale et puis la MEL pour les infrastructures sportives, notamment à Jules Ferry, qui nous ont bien accompagnés sur ces projets. Et également pour les caméras, d'ailleurs. Je vous propose maintenant d'examiner de manière globale donc les recettes réelles de fonctionnement. Donc nous prévoyons des recettes de fonctionnement équivalente à 14 712 284 euros, avec évidemment, ça reste traditionnel chez nous, ce qui n'est pas le cas dans les communes aux alentours, nos premières recettes, la part principale, donc les deux tiers, cela provient de la contribution des impôts locaux. Ensuite, la deuxième partie, ce sont les dotations, donc de l'État, de la CAF, un peu moins de 3 millions, donc il représente 20% de nos recettes. Notre excédent, donc qui est à confirmer au niveau du compte administratif anticipé, mais il n'y a pas trop de soucis normalement, il n'y a jamais eu de soucis entre la trésorerie et nous sur la tenue des comptes, qui est un petit peu en dessous d'un million, donc 6% des recettes, et les recettes diverses propres à 886 000 euros, donc 6%. Au niveau de la loi de finances, nous avons appris donc une revalorisation des bases fiscales. Une des premières années où cela arrive, c'est une dissociation de la revalorisation des bases de la taxe du foncier et pour la taxe foncière et la taxe d'habitation. Bah évidemment, parce que la taxe foncière, ce sont les contribuables qui payent, et la taxe d'habitation, c'est l'État qui compense. Donc on ne va pas augmenter de la même manière qu'auparavant, c'était toujours le même taux. Donc 1,2 pour la taxe foncière et 0,9 pour la taxe d'habitation. Ensuite, ce qui est à noter, c'est une progression importante des droits de mutation à titre onéreux, donc en gros hein, les frais de notaire, il y a une progression importante au cours de ces 6 dernières années. On est passé d'à peu près 350 000 euros à 600 000 euros par an. Donc là, il y a une réévaluation des recettes que nous prévoyons pour le prochain budget. Nous avons une légère augmentation des dotations, mais uniquement grâce à la DSU et aux compensations fiscales. Les recettes de la CAF donc, augmentent suite à l'augmentation des effectifs jeunesse. Donc ça, plus il y a d'effectifs, plus la CAF abonde nos budgets. Nous ne prévoyons pas d'augmenter les tarifs de services au public. Et il est à noter également la baisse des recettes au niveau des emplois aidés, vu que ce dispositif n'existe plus, et on peut le regretter de différentes manières, parce que ça nous permettait aussi de tester et de pouvoir former nos employés, et ça permettait surtout aux jeunes qui étaient un peu éloignés de l'emploi de mettre le pied à l'étrier et d'être employés soit ici en étant titularisés, ou alors de prendre leur envol autre part. Je pense qu'on a joué le jeu au niveau des emplois aidés, des emplois d'avenir. Je parle sous le contrôle de Philippe, où la majorité des personnes qui ont souhaité rester ont été titularisées dans nos services. Et une décision qui est une correction de l'année par rapport à l'année dernière, où nous avons eu des précisions, je tiens à le souligner de la part de Madame André, où nous baissons la taxe foncière non bâtie de 1% pour correspondre à ce que nous avons fait l'année dernière. Nous avons eu des précisions de la part des services fiscaux. Par contre, les taux de la taxe d'habitation et de taxe du foncier bâti restent au même niveau. Je vous propose donc maintenant de regarder, de parcourir rapidement le tableau des dotations de l'État, où je vais revenir bien évidemment sur la DGF qui mérite une belle attention. Donc vous voyez que sur l'ensemble de 2013 à 2014, il y a quand même 600 000 euros en moins de recettes de manière globale. Ceci avec la baisse très importante de la DGF, mais avec des hausses au niveau de la DSU et des compensations et de la DNP, pardon. Donc la dotation nationale de péréquation. Donc, je vous propose d'examiner un peu plus attentivement la DGF. Donc contrairement au discours très couru qui est de dire que la DGF est stable, ce tableau illustre bien le fait que depuis 2017, certains se sont engagés à ne pas baisser la DGF. De 87,34 euros à 84,31 euros, il y a quand même une baisse, ce qui fait une baisse de 3% des recettes au niveau de la DGF. Donc quand on nous dit qu'il n'y a pas de baisse de la DGF, il y a une baisse de la DGF. Les chiffres sont très clairs. Et de 2013 à aujourd'hui, on est à 64 euros, un peu plus de 64 euros de pertes par habitant, soit 43% de moins au niveau des recettes de la DGF. Ce qui représente à peu près 800 000 euros. C'est quand même pas neutre sur notre budget quand on voit que nos recettes de fonctionnement avoisinent à peu près les 14 millions. Alors, plus ou moins, suivant les années, c'est quand même loin d'être neutre. Donc on va passer, je pense, rapidement sur le graphique qui montre... je pense que c'est très clair. Il n'y a pas besoin de discussion. Donc je vous propose maintenant de passer à la partie dépenses. Donc les dépenses réelles de fonctionnement avec des dépenses estimées à un peu moins de 13 500 000 euros. Le premier poste de dépenses, encore une fois, de manière classique et de manière traditionnelle, ce qui est normal pour nous, les charges de le personnel, donc nous prévoyons un peu plus de 8 millions d'euros de dépenses. Ensuite, les charges à caractère général, un peu moins de 23%, donc un peu plus de 3 millions. Les subventions et participations, un peu moins de 2 millions. Les charges financières et les charges exceptionnelles. Donc, quelles sont les différences notables par rapport à l'année dernière au niveau des dépenses? Une augmentation des dépenses à caractère général, où il y a là une augmentation un peu plus sensible de 5,71%. Les dépenses de personnel en hausse de 2,14%, ce qui correspond à l'évolution de carrière et au recrutement des derniers emplois d'avenir que nous allons titulariser. Le maintien des services existants, le développement des nouveaux services tels que le développement durable, l'accueil de tous nos jeunes aux ALSH, centres et mercredis récréatifs. Et ce qui est aussi à noter, ce sont les charges financières qui sont en diminution. Ensuite, vous avez rapidement le graphique au niveau des dépenses de personnel. Voilà. Et je me permets de passer rapidement et de passer au deuxième graphique où je vais donner un peu plus de précision par rapport aux dépenses de personnel. Alors, en commission, comme lors des derniers conseils, j'ai eu régulièrement la question des dépenses de personnel qui sont très importantes. Je vais donner quelques petits exemples pour montrer que les chiffres, il faut les prendre, ces chiffres-là, il faut les prendre avec des pincettes. Hein? Oui, monsieur Ostrat.
Comme je le dis à chaque fois, on a des soucis parce que vous ne présentez pas les documents de la même manière que nous, on les a. On n'arrive pas à suivre, en fait, ce que vous nous dites. Et on ne peut pas retrouver les chiffres. On n'arrête pas de passer d'une page à une autre, de ce qui fait qu'on n'arrive pas à se concentrer sur ce que vous nous racontez. On ne les a pas. On passe de la page 33 à la page 17.
Mais c'est les documents, ce sont les documents qui sont projetés à l'écran.
Oui, d'accord, mais nous, on aime bien regarder par rapport aux documents que vous avez donnés pour travailler.
Sinon, ce sont les mêmes chiffres, mais c'est parce que... comme le rapport est très important au niveau du nombre de données, on fait une synthèse pour qu'on se retrouve assez...
Mais c'est quand même pas compliqué, sur votre tableau, sur la page, de mettre à quoi ça correspond. Nous, on suit avec le support que vous nous avez donné.
On est à la page 18.
Donc ça correspond aux évolutions de dépenses de personnel.
Si vous permettez, je vais finir. Vous nous donnez un document qui est un support, qui se veut un support justement pour cette discussion, ce débat. Et vous nous présentez des documents où on passe notre temps à chercher dans les pages pour voir si effectivement c'est bien les chiffres sur lesquels on a travaillé.
Ça suit, on est à la page 18.
Mais on n'arrive pas. Bah, attendez, on était passé tout à l'heure à la page 33. Hein. Bon, pour avoir les mêmes documents, les 13 millions et quelque chose, c'était page 33, c'était pas page 18. Donc on a toujours l'exercice de chercher par rapport à nos notifications si on a bien lu les mêmes chiffres, si on a... on n'arrive pas à suivre. Quoi. Enfin, moi, personnellement, je suis... vous me perdez, là.
Ben moi, ça va, je suis sur les deux.
Bah oui, forcément, c'est vous qui l'avez travaillé, donc c'est beaucoup plus simple.
Je suis à la page 19, là, il n'y a pas de problème.
Bah écoutez, c'est normal que vous ayant travaillé sur le document de synthèse, vous savez ce qui en retourne. Nous, on n'arrête pas ici, je regarde tous mes collègues également, on n'arrête pas d'osciller entre les pages d'avant, pages arrière. Et c'est pas un argument. Enfin, on parle de débat, on parle de sincérité. C'est un des derniers en plus du mandat, donc je pense que quelque part, on peut faire l'effort de choses qu'on a déjà demandées par le passé, enfin, que personnellement j'avais déjà demandé. Vous faites un document de synthèse qu'on n'a pas. On ne peut pas suivre le document. Alors certes, vous le projetez. On prend des notes par rapport. Vous dites que c'est un débat, donc automatiquement, on essaie de travailler. À moins que vous nous demandez simplement d'écouter, puis de valider ce que vous nous dites, et puis de pas dire ce qu'on en pense. Enfin, moi, je vous dis franchement, je suis un peu frustré de la manière dont ça se passe, alors, étant donné que le document, encore une fois, je n'arrive pas à me suivre.
La base de la discussion, c'est bien ce document, le rapport de notation budgétaire. Mais je fais une introduction à la discussion pour rappeler les grandes données et je me permets de ne pas faire de suivre exactement le rapport. Pourquoi ? Parce qu'il y a une partie analyse rétrospective et une partie prospective. Et là, pour gagner du temps et pour que ce soit lisible pour tout le monde, on a rassemblé les deux pour que ça soit un échange qui soit le plus compréhensible pour tout le monde.
Je comprends bien, mais il aurait peut-être fallu annoncer ça avant.
Donc maintenant, précision est faite, je vous remercie de la question, comme ça tout le monde est au courant.
Je dis autre possibilité, effectivement, nous remettre avant la réunion le document que vous projetez. Effectivement, je rejoins M. Scrat, c'est un peu compliqué.
Donc je poursuis au niveau des dépenses de personnel, donc la partie rétrospective et la partie prospective qui sont mélangées. Donc les chiffres sont à prendre avec des pincettes au niveau de la de services offerts aux citoyens et de l'imputation budgétaire. Je vais prendre quelques exemples. Le premier, c'est la partie crèche RAM qui est dans les dépenses de personnel, mais qui pourrait très bien se retrouver au niveau du CCAS, comme c'était le cas il y a un certain nombre d'années. Et cela représente 600 000 euros, à peu près. Donc, sur les 8 millions, on pourrait déjà enlever 600 000 euros. Ensuite, nous avons fait le choix, et nous avons l'unanimité du Conseil là-dessus, de poursuivre la restauration, la cuisine centrale, avec toutes les charges que ça incombe au niveau du personnel, ce qui représente 900 000 euros. Là, on aurait pu faire le choix de faire comme de nombreuses communes, c'est-à-dire d'externaliser le service, et là, ça représente 900 000 euros. Vous voyez, ça représente déjà 10%, plus de 10% du budget de personnel. Ensuite, nous avons aussi des services que nous devons prendre qui ne sont pas obligatoires, mais que nous pensons aujourd'hui indispensables. Les services de la police municipale représentent 400 000 euros au niveau des charges de personnel. Ensuite, la partie culture culture. Agora, sur ce qui concerne le site Agora, donc l'école de musique et la bibliothèque, ça représente 305 000 euros de dépenses, où là, c'est pareil, on a fait le choix de continuer. Ensuite, un petit chiffre aussi, où on discute, et où nous avons également l'unanimité du Conseil là-dessus, ce sont les ATSEM, où bon, ce sont des calculs à préciser, à peaufiner, mais on est sur des ordres de grandeur. Si on respectait uniquement la loi, c'est-à-dire une ATSEM par école, et on mettait en place des contrats pour des femmes, pour des dames de ménage, ça représente 250 000 euros d'économie. Mais nous, ce n'est pas du tout notre choix, et ce n'est pas le choix de tout le monde. Ce qui ferait à peu près 70 000 euros d'économie pour l'école Marie Curie, 70 000 euros pour l'école Anatole France, et plus de 110 000 euros pour l'école maternelle Paul Bert. Donc voilà, je pense que là-dessus, les chiffres sont assez, assez parlants. Il y a des choses qu'on n'est pas obligé de faire, mais qu'on a choisi de faire et qu'on maintiendra. Mais aussi des parties comptables, je parle notamment de la crèche et de la cuisine, qui pourraient être faites au niveau extérieur ou alors sur d'autres comptes. et je n'ai pas pris l'exemple non plus du service espace vert qui pourrait également être externalisé. Donc ces chiffres-là, on va peut-être les préciser pour le budget où on aura un peu plus de détails au niveau de ces services. Ensuite, au niveau de la dette, je vous propose de passer au niveau de la dette. Donc vous voyez le graphique. Donc nous étions à 10 297 325 euros en 2013. Et là, nous sommes à 9 529 073 euros, soit une baisse d'un peu plus de 7,5%. Donc on est toujours dans une dette plutôt stable, une dette maîtrisée. Donc comme chaque année, j'aime bien répéter ça, mais je pense que c'est important, et même si tout le monde en est conscient au niveau des conseillers municipaux, mais nous n'avons pas de dette toxique, donc d'emprunt toxique, à savoir que nous avons donc plus de 80% de nos emprunts qui sont à taux fixe et un peu moins de 17% qui sont en livret A, indexés sur le livret A. Ensuite, je vous propose de passer à la partie autofinancement. Donc l'autofinancement, je synthétise un peu, mais ce sont nos marges de manœuvre financières au niveau de l'investissement. Donc je rappelle que nous étions à moins 165 000 euros d'autofinancement. Quand à partir de 2 ans d'autofinancement négatif, on a de fortes chances d'être placé sous tutelle. Et aujourd'hui, on est à 755 000, ce qui est quand même le meilleur autofinancement que nous ayons obtenu depuis le début du mandat. En sachant qu'entre deux, pour calculer l'autofinancement, il faut aussi voir les recettes qui ont diminué. Petit rappel aux 800 000 euros que nous avons perdus de la part du gouvernement, enfin, que nous avons perdu de la DGF. Un petit remerciement au gouvernement. Donc, si on faisait un simple calcul, on rajoute 800 000 euros, on sera à 1,5 million d'autofinancement aujourd'hui. C'est, voilà. C'est quand même à dire. Ensuite, je vous propose de passer aux dépenses d'investissement. Donc, quels sont les investissements que nous prévoyons cette année? Donc, à peu près 5 700 000 euros. Le premier, et je pense que tout le monde l'a en tête, c'est le projet Paul Bert, donc la fin de la cuisine centrale et du réfectoire, et le début du chantier de la maternelle. Donc on sera plus sur la partie démolition pour cette fin d'année. Ensuite, l'extension du colombarium, la rénovation de l'église Saint-Luc, où là, on passe à la partie vitraux, le système de désenfumage du complexe Jules Ferry, la rénovation du terrain synthétique du stade Jean Chol, la descente de plafond au niveau de l'école maternelle Anatole France, où nous avons des plafonds très hauts, et où là, ce sera un peu plus adapté et plus moderne au niveau de l'école Anatole France. Une provision pour la rénovation de l'école élémentaire Paul Bert. Ensuite, les badges de télé-intrusion dans les écoles. Donc là, on parle bien des systèmes d'alerte et de secours qui ont été évoqués en commission et qui rassurent fortement les enseignants dans leur quotidien. Ensuite, l'extension de la vidéosurveillance, les divers travaux et les travaux en développement pour le développement durable, les travaux de sécurité et d'accessibilité, l'achat de bâtiments modulaires au parc Maréchal, donc qui font suite au chantier de l'école Paul Bert, mais également une partie de ces bâtiments modulaires qui resteront pour accueillir plus d'enfants lors des ALSH les mercredis, pendant les petites vacances et pendant les vacances d'été. Donc l'extension du parc Maréchal en réalité. Ensuite, la mise à niveau de l'éclairage public, l'acquisition immobilière au 37 rue Jeanne d'Arc et le parking Chanzy. Donc, quelles sont les priorités pour la municipalité cette année? Donc, évidemment, comme depuis le début du mandat, de continuer à maîtriser les dépenses de fonctionnement afin de dégager un autofinancement suffisant pour financer les investissements futurs. Donc, je pense que là, la courbe au niveau d'autofinancement a parlé. Maintenir un service public de qualité dans tous les domaines, donc l'enseignement, la jeunesse, le sport, la culture, le social, le développement durable, les seniors, assurer la sécurité de ses concitoyens et également, je l'ai déjà évoqué il y a quelques instants, mais terminer le projet Paul Bert et obtenir le maximum de subventions pour ce projet, où je rappelle que nous avons déjà 1 million d'euros de subventions sur ce projet. Donc ce qui prouve que notre droit à tirage, ce qui a mal été compris par certains membres du Conseil, est la bonne stratégie, parce que nous avons eu 1 million cette année, et comme nous faisons ce programme sur plusieurs exercices, nous avons d'autres droits à tirage, donc normalement encore 2, voire 3, ça permet d'avoir davantage de subventions. Ensuite, comme tous les ans, je vous propose d'examiner le PPI. Donc, il n'y a pas de grand changement, hormis la fusion des lignes éclairage public neuf et éclairage public génie civil, où là, l'enveloppe est la même et est fusionnée. Ça permet d'avoir un peu plus de souplesse pour notre prestataire, afin que les travaux ne demandent pas de réécriture comptable. Ensuite, une ligne qui change un peu plus que les autres cette année, nous avons mobilier de restaurant scolaire, je pense que tout le monde a compris pourquoi, et le remplacement du matériel informatique, où il y a un besoin de renouvellement important. Nous avons eu des demandes de la préfecture afin de moderniser nos appareils et notre réseau, afin de prévenir les différentes attaques que nous pourrions subir. Il y a des villes dans la métropole qui ont subi ce type d'attaque. Elles ont perdu énormément de données. Je pense en particulier la ville de Sequedin, où c'est très compliqué de retrouver les données financières ou les données personnelles des administrés. Ce n'est pas du tout l'objectif. Donc c'est pour sécuriser aussi nos données. Ensuite, donc, je vais reparler donc, de la construction de la cuisine centrale. Donc, où là, nous prévoyons donc cette année un peu plus de 3 millions et pour l'année suivante, 2,5 millions. Donc, on continue ce PPI. Pour le reste, je pense que nous avons déjà évoqué tout ça. Peut-être la mise aux normes et la sécurisation d'une partie des ateliers municipaux qui n'est pas dans les investissements que j'ai déjà cités, mais où il y a une au niveau du désenfumage de la sécurité incendie. Où il y a une remise à niveau de prévu. Voilà, je pense que je vais avoir des questions.